Haïkar, la grande guerre des émeus. Sir George Pierce, sénateur d'Australie-Occidentale, s'apprêtait à vivre les événements les plus importants de sa carrière, ceux qui allaient le rendre à jamais immortel. Sir George était, ma foi, plutôt bel homme, grand, distingué et arborant une fière moustache. Il n'y a pas à dire, il avait de l'allure et devait encore plaire aux femmes. Il était né en 1870 à Moonbeker, en Australie-Méridionale, et était le lointain descendant des Anglais partis de Cornouailles et arrivés ici au XVIIIe siècle avec le capitaine Cook. Quand le téléphone sonna, en cette belle journée d'octobre 1932, Sir George Pierce, actuel ministre de la Défense, décrocha immédiatement. « Allô, quoi ? Vous me dérangez parce que des volatiles picorent vos champs ?» Il éclata d'un grand rire sonore et raccrocha d'un coup sec le combiné. Mais dans les heures qui suivirent, les appels se multiplièrent et Sir George commença à comprendre que l'affaire était sérieuse. Un groupe de 20 000 émeus avait envahi les champs de blé du district de Campion et causait des dégâts considérables. « Entrez !» cria presque Sir George quand on frappa à la porte de son bureau. « Je vous présente Archibald McAllister, ornithologue, » dit son secrétaire tout en effectuant un pas de côté pour laisser passer le vieil homme. Sir George s'approcha et lui serra la main. « Vous tombez à pic. Vous allez m'expliquer comment tous ces émeus sont arrivés là. Ils ne sont pas tombés du ciel quand même. » « Mais les émeus ont toujours été là, » commença le vieil homme. « Ce sont les hommes qui sont venus s'installer sur leur route migratoire. Les émeus suivent la pluie. En Australie-Occidentale, les pluies d'été vont vers le sud-ouest en partant du nord et suivent le chemin inverse en hiver. C'est la route qu'empruntent les émeus dans leur déplacement de masse. « Mais quelle pluie voulez-vous qu'ils suivent ?» le coupa Sir George. « Ça fait des semaines qu'il n'est rien tombé. »« Justement, c'est parce qu'il ne pleut pas qu'ils ont convergé par milliers vers le village de Campion. Les points d'eau artificiels installés pour le bétail sont pour eux une manne inespérée. Et en plus, ils ont trouvé des champs de blé à perte de vue qui leur offrent le gîte et le couvert. Pourquoi voudriez-vous donc qu'ils repartent ?» « Vous savez ce que ça mange des oiseaux de cette taille ?» interrogea Sir George. « On estime qu'un émeu adulte consomme entre 800 et 1200 grammes de nourriture par jour. » Sir George se tourna vers la fenêtre et tout en gardant l'index pointé sur la tempe, se retourna pour dire « Vous vous rendez compte ? C'est 200 quintaux de blé qui disparaissent chaque jour dans leur ventre ?» sans compter tous les épis piétinés et les trous qu'ils font pour se coucher. » Sir George fit quelques pas et reprit. « Mais pourquoi les paysans sont-ils venus s'installer là ?»« Permettez que je vous réponde, » dit Archibald McAllister. « Ces paysans sont pour la plupart des vétérans de la Première Guerre mondiale, australiens mais aussi britanniques, qui, las de toutes les horreurs qu'ils ont vues, ont choisi de s'installer loin du monde, loin de nos sociétés belliqueuses. » Sir George écoutait, sans dire mot. Le vieil homme poursuivit. « En plus, avec le gigantesque krach boursier que nous avons connu il y a 3 ans, le gouvernement a incité les agriculteurs à étendre les champs de blé. De grandes plaines semi-arides de l'intérieur se sont ainsi métamorphosés en culture céréalière. Mettez-vous donc à la place des émeus. Nourriture et eau à volonté, c'est le paradis. Ils n'ont même plus besoin de migrer. » « Que faudrait-il faire alors selon vous ? » interrogea Sir George. « Installer des clôtures infranchissables. Infranchissable, ça veut dire quoi ? 1m50 au minimum. Sir George fit quelques pas dans la pièce, tout en se caressant le menton. Très bien, je vais voir si c'est possible. En voyant Sir George se diriger vers la porte, Archibald McAllister comprit que l'entretien était fini et se leva. Je vous remercie d'être venu. Sans vos lumières, qu'aurais-je fait ? Une vigoureuse poignée de main acheva l'entretien et Sir George regagna son fauteuil. Renseignement pris, il s'avéra que l'élévation d'une clôture coûterait beaucoup trop cher. Le gouvernement n'avait ni le temps ni les moyens de réaliser un tel projet. 200 quintaux de blé disparaissaient chaque jour dans l'appareil digestif de ces volatiles. Il fallait que ça cesse immédiatement. On toqua à la porte. C'était son secrétaire. « Sœur, une délégation de fermiers demande à être reçue. »« Et en quoi cela me concerne-t-il, s'il vous plaît ?»« Sœur, c'est au sujet des émeutes. »« Quoi, c'est pas vrai ? Je viens tout juste d'être informé du problème et les voilà déjà qui débarquent. Dites-leur de revenir demain. »« Sœur, ils ont l'air très en colère. » Raison de plus qu'ils reviennent demain. Combien sont-ils ? Une dizaine environ, sœur. J'en recevrai 3. Inscrivez-les pour 10 heures. 3 représentants, sœur ? Pardi, de quoi voulez-vous qu'il s'agisse d'autres ? Le lendemain matin, à 10 heures pile, Sir George demanda qu'on introduise les 3 hommes. Un grand gaillard de près de 2 mètres apparut dans l'encadrement de la porte. D'un simple hochement de tête, il fit signe aux 2 autres d'entrer avant lui. « Sergent Tom O'Halloran !» dit un petit homme râblé en empoignant la main que lui tendait le ministre. « Je vois que vous avez été décoré. »« Gallipoli, avril 1915, monsieur le ministre. »« Lanzac, la bataille des Dardanelles. » Nous avons eu de lourdes pertes. Oui, monsieur le ministre. Et vous ? Demanda Sir George à un grand blond aux traits burinés par le soleil. J'ai encore quelques éclats d'obus dans la tête, mais ça va, on fait aller. L'homme sourit. Il ne doit pas être marié, songea Sir George en voyant ses dents jaunes, ses grosses lèvres proéminentes, ainsi qu'une vilaine cicatrice qui lui barrait le visage du nez jusqu'à l'oreille droite. Il lui manquait d'ailleurs le lobe de l'oreille qui semblait avoir été arraché. Messieurs, prenez place. 3 fauteuils de style victorien les attendaient. Le géant semblait hésiter et évaluer du regard la robustesse du fauteuil dans lequel il finit par prendre place. « N'ayez crainte, ils sont solides. Ils ont toujours craqué. »« Messieurs, puis-je vous offrir quelque chose ?»« Non, » répondirent-ils de concert. « Un cigare, peut-être, » ajouta Sir George en leur présentant une boîte. « Ils sont excellents. Je les fais venir directement de Cuba. » D'un hochement de tête accompagné d'un mouvement de la main, le géant fit signe que non. « Je suis preneur, » dit le sergent en saisissant un délicatement entre le pouce et l'index. Il le huma et allait s'exprimer quand Sir George prit la parole. « Bon, messieurs, si nous passions aux choses sérieuses, qui veut commencer ?» Le petit sergent ne se fit pas prier et attaqua aussitôt. Pour faire face à la crise de 1929, le gouvernement nous a demandé d'étendre nos cultures de blé. Nous avons immédiatement répondu présent et fait de lourds investissements. Mais le gouvernement n'a pas tenu ses promesses. Les aides ne nous ont jamais été versées. Nous sommes endettés jusqu'au cou. Et maintenant, des milliers d'émeutes saccagent nos champs. Que comptez-vous faire concrètement ? Tout d'abord, répondit Sir George, « Laissez-moi vous féliciter pour les très bons résultats que vous avez obtenus. J'ai ici la courbe de croissance de la production de blé de ces deux dernières années. La superficie des terres emblavées est passée de 6 à 7,26 millions d'hectares. Et la production ? Arrêtez les beaux discours, les chiffres on les connaît. Le coup à Tom O'Halloran. À quoi ça nous sert de produire plus puisque le cours du blé ne cesse de baisser ? On parle même de surproduction. Le géant dodelina de la tête pour montrer qu'il approuvait son camarade. Le grand blond souriait toujours. Content qu'on dise des vérités, lâcha-t-il en se tapant sur la cuisse. Messieurs, un peu de calme, s'il vous plaît, dit Sir George qui entendait rester maître de la situation. Eh bien, dites-nous ce que vous comptez faire pour nous débarrasser des émeus avant qu'ils n'aient tout détruit, reprit Tom O'Halloran. Car en ce moment, pendant que nous sommes assis là, bien tranquillement à discuter, ils saccagent nos récoltes et dévorent les épis de blé. Le grand blond se tapa à nouveau sur la cuisse. C'est bien vrai, ils font des dégâts énormes, ils en piétinent bien plus qu'ils en mangent, c'est de la vermine, il faut s'en débarrasser. À coup de mitrailleuse, dit le géant qui ouvrait la bouche pour la première fois. Des mitrailleuses, c'est pas un peu exagéré pour des oiseaux, répondit en souriant Sir George. 50 kilos pour 1m90, vous appelez ça des oiseaux ? Dit le petit sergent. Ils courent à plus de 50 km/h. Bob a raison, il nous faut des mitrailleuses. Vous ne pourriez pas les piéger ou les empoisonner ? Interrogea Sir George. Vous êtes malin, vous ? Vous avez envie de faire crever tout le bétail ? S'exclama Tom O'Halloran, qui avait oublié qu'il parlait à un ministre. Un large sourire se dessina sur la bouche lipue du grand blond. « Donnez-nous 2 mitrailleuses légères, monsieur le ministre, 2 Lewis Mark 1, et je vous garantis qu'en une journée le problème est réglé. Nous avons bien vu comment ces petits bijoux décimaient les rangs adverses pendant la Première Guerre mondiale. Messieurs, un peu de calme, je vous prie. Je vais voir ce que je peux faire. De toute façon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il me sera impossible de confier de l'armement militaire à des civils, qui plus est des mitrailleuses. » L'entretien se poursuivit encore une bonne dizaine de minutes, Sir George les assurant qu'il ferait tout ce qu'il était en son pouvoir pour leur donner satisfaction, au besoin en créant une task force. Cette nuit-là, Sir George n'arriva pas à trouver le sommeil. Envoyer l'armée avec des mitrailleuses pour détruire les émeus ne risquait-il pas de choquer l'opinion publique ? Le souvenir douloureux des 2 plébiscites pour les conscriptions de 1916 et 1917 le hantait toujours. Il se rappelait avoir été quelque peu naïf. En tant que sénateur d'Australie-Occidentale, il avait dirigé lui-même dans son état les campagnes en faveur du service militaire obligatoire. « Allez vous battre en Europe, sauvez les démocraties !» Et la réponse au référendum de 1916 et 1917 avait été « oui » en Australie-Occidentale, mais le « non » l'avait emporté sur le plan national. Et c'est là qu'il avait manqué d'intelligence, ou plutôt de clairvoyance. La population de son État étant majoritairement pour la conscription, le « oui » l'avait d'ailleurs emporté à 69,71% en 1916, il avait pensé l'emporter facilement sur le plan national. Mais il n'avait pas assez tenu compte d'un facteur important. La population de son État comptait un nombre élevé de citoyens d'origine britannique. Et c'est à eux qu'il devait cette forte proportion de oui. Ils avaient vu dans la conscription un geste de loyauté envers la couronne britannique. Mais dans les autres États, où ils n'étaient pas majoritaires, le vote des ouvriers et des fermiers avait été motivé par de tout autres raisons. Les ouvriers avaient craint qu'on ne fasse appel à une main-d'œuvre étrangère moins bien payée pour les remplacer dans les usines pendant qu'ils serviraient en Europe, et qu'à leur retour, ils ne puissent plus retrouver leur salaire. Il avait aussi sous-estimé le vote des femmes. Bien plus pacifiste par nature que l'homme, lesquels s'étaient mobilisés massivement contre la conscription. Mais peut-être qu'au fond, la raison principale du rejet de la conscription avait été la distance énorme qui séparait l'Australie de l'Europe. Le théâtre des opérations, les bombardements, les territoires occupés, tout ça était si loin. En tout cas, il ne voulait pas se tromper une nouvelle fois. Par deux fois déjà, il avait connu l'humiliation de la défaite pour des victoires qu'il avait crues faciles. Finalement, était-il vraiment intelligent? Il avait beau être à la fois sénateur d'Australie-Occidentale et ministre de la Défense, il lui arrivait de se demander s'il était vraiment intelligent. Intelligent vient du latin intelligere, choisir entre. Est intelligent celui qui fait le bon choix. Il n'avait jamais oublié ces paroles de son professeur de latin, tout en ayant conscience d'avoir maintes fois failli à cette belle et noble définition. Quel choix allait-il faire avec les émeux? Il ne le savait pas encore. Ou du moins, voulait-il le croire? Car en sa qualité de ministre de la Défense, avait-il vraiment le choix? Il s'endormit sur cette interrogation. À son réveil, il fut à la fois étonné et ravi de constater que tout était maintenant très clair dans sa tête. Il allait créer une task force composée de militaires qui auraient pour mission d'éradiquer les émeus. Il fallait montrer aux fermiers qu'on était avec eux, que le gouvernement faisait tout pour les aider. Il acquiesça donc à la demande des fermiers, nonobstant certaines conditions. Les fermiers prendraient à leur charge le coût des munitions utilisées et fourniraient le gîte et le couvert. Comme il s'agissait d'un problème local, il jugea inutile d'informer le conseil militaire à Canberra. Il utiliserait les forces militaires locales. Pour cela, il prit contact avec le brigadier A.M. Martin, qui commandait la 5e région militaire basée à Perth. Ils discutèrent un bon moment, évoquant le fait que les émeus étaient coriaces, difficiles à approcher, et qu'il ne serait pas si facile que cela de les tuer. En conséquence de quoi, il faudrait prévoir une quantité importante de munitions. L'entretien se conclut sur une phrase de Sir George Pierce qui déclara « Nos hommes n'ont pas souvent l'occasion de s'entraîner sur des cibles mouvantes. » Ça leur fera un excellent exercice de tir. » Fort de toutes les recommandations que lui avait laissées le ministre de la Défense, le brigadier Martin s'attela d'heure-chef à la tâche. Il choisit deux de ses meilleurs hommes, qui avaient la réputation d'être de fines gâchettes, le sergent S. McMurray et l'artilleur Jim O'Halloran, qu'il plaça sous le commandement du major J.P. W. Meredith. Sur la recommandation de Pierce, un caméraman aux armées de la Fox Movieton se joindrait à eux pour filmer la campagne. Le premier ministre d'Australie-Occidentale, Sir James Mitchell, donna son feu vert. Mardi 18 octobre 1932, la task force composée du major J.P. W. Meredith, du sergent S. McMurray et de l'artilleur Jim O'Halloran quitterait de nuit la base de Perth pour Bourakopine, équipée de 2 mitrailleuses Lewis Mark I et 10 000 munitions. La première guerre officielle contre les émeus venait d'être déclarée.